22. Statewide Motorcycle et Small Engine Repair n'est ni à l'échelle de l'État ni à celle de la ville. C'est une erreur de zonage délabrée, en tôle ondulée rouillée, située dans le Southside, à un jet de pierre du stade de Ligue mineure où jouent les Groundhogs. Il y a une rangée de motos à vendre en façade, alignées sous des fanions en plastique ondulant mollement sous une longueur de câble pendouillante. La plupart des motos paraissent plutôt sommaires à Maurice. Un gros type en gilet de cuir, assis par terre contre le mur, est en train de tamponner sa peau écorchée par le bitume avec une poignée de Kleenex. Il lève les yeux vers Maurice et ne dit rien. Maurice ne dit rien non plus. Il a dû se taper la route à pied depuis Edgemont Avenue, quasiment deux bornes, sous le soleil brûlant du matin, parce que les bus ne viennent jusqu'ici que les jours de match. Il entre dans le garage, et voilà Charlie Robertson, assis sur un siège de voiture maculé de cambouis, devant une Harley à moitié démontée. Charlie ne voit pas Maurice. Il est en train d'examiner la batterie de la Harley qu'il tient devant lui. Pendant ce temps, Maurice, lui, l'examine. Même s'il doit avoir dépassé les 70 ans, qu'il est chauve sur le dessus du crâne avec un pourtour de cheveux grisonnants, Charlie est toujours le même type musclé, compact comme une borne d'incendie. Il porte un t-shirt aux manches coupées, et Maurice peut lire le tatouage de prison fané sur l'un de ses biceps. White power forever, pouvoir blanc pour toujours. L'une de mes réussites, pense Maurice, et il sourit. Robertson purgeait une peine de prison à vie à Waynesville pour avoir matraqué à mort une riche vieille dame de Bronson Park, dans Willand Avenue. Elle s'était apparemment réveillée et l'avait surpris rôdant dans sa maison. Il l'avait aussi violée, peut-être bien avant de l'avoir matraquée, peut-être après, alors qu'elle gisait agonisante sur son palier à l'étage. Procès perdu d'avance pour Robertson. Il n'y avait pas photo. Il avait été vu dans le secteur à plusieurs reprises dans les jours précédant le cambriolage. Il avait été photographié par la caméra de sécurité du portail de la vieille dame la veille de l'effraction. Il avait discuté de la possibilité de visiter cette crèche-là et de voler cette dame-là avec plusieurs de ses copains des bas-fonds, tous plus qu'incités à témoigner par le procureur, ayant eux-mêmes quelques faux pas à faire éponger, et il avait un copieux casier pour vol et agression. Le jury l'avait déclaré coupable. Le juge avait prononcé la perpétuité sans libération conditionnelle. Robertson avait troqué la réparation de moto contre la confection de blue jeans et le vernissage de meubles. « J'ai fait mon lot de conneries, mais j'ai pas fait ça », avait-il confié à Maurice maintes et maintes fois. « J'aurais pu. J'avais le putain de code de sécurité. Mais quelqu'un d'autre m'a coiffé au poteau. Je sais qui, en plus. Parce qu'il n'y a qu'un seul type à qui je l'avais donné. C'est un de ceux qui ont témoigné contre moi, putain. Et si jamais je sors d'ici, ce type-là va crever, je te le promets. » Maurice l'avait ni cru, ni pas cru. Ses deux premières années en tôle lui avaient appris que la ville était remplie de types qui se prétendaient aussi innocents que la rosée du matin. Mais quand Charlie lui avait demandé d'écrire pour lui à Barry Sheck, Maurice avait accepté. C'était ça son vrai boulot en prison. Il apparut que le cambrioleur-matraqueur-violeur avait laissé de son sperme sur les sous-vêtements de la vieille dame. Que les dix sous-vêtements étaient encore conservés dans l'une des caverneuses réserves à pièces à conviction de la ville, et que l'avocat envoyé par le projet Innocence, pour enquêter sur le cas de Charlie Robertson, les avait retrouvés. Les tests ADN, non disponibles à l'époque de la condamnation de Charlie, avaient prouvé que la semence n'était pas la sienne. L'avocat avait engagé un détective afin de retrouver la plupart des témoins appelés par l'accusation. L'un d'eux, en train de mourir d'un cancer, était non seulement revenu sur son témoignage, mais avait reconnu le crime, dans l'espoir peut-être que ses aveux tardifs lui ouvriraient les portes du paradis. « Hey, Charlie !» lança Maurice. « Devine qui est là ?» Robertson se retourna, plissa les yeux, se leva. « Maury, c'est toi, Maury Bellamy !» En chair et en os. « Ça alors, tu m'en bouches un coin !» « Sûrement pas, » pense Maurice. Mais quand Robertson pose la batterie sur le siège de la Harley et s'avance vers lui, bras largement écartés, il doit se soumettre à l'étreinte de rigueur avec tape fraternelle dans le dos. Il rend même l'appareil, au mieux de ses capacités. La masse de muscles sous le t-shirt crade de Robertson est vaguement alarmante. Robertson se recule et dévoile ses chicots restants dans un large sourire.
Jésus-Christ ! Conditionnel ?
Conditionnel.
La vieille t'a lâché la grappe ?
Ouais, elle s'est décidée.
Bon Dieu, c'est génial ! Viens au bureau arroser ça, j'ai du bourbon.
Maurice secoue la tête. Merci, mais l'alcool me réussit pas. Et puis, le capot pourrait débarquer à tout moment pour me réclamer un échantillon d'urine. Je me suis fait porter pâle au boulot. C'est assez risqué comme ça.
C'est qui ton agent de probation ?
McFarland.
Grand nègre à grosse couille, hein ?
Il est noir, ouais.
Ah, c'est pas le pire. Mais c'est vrai qu'au début, ils t'ont à l'œil. Viens quand même au bureau, je boirai ta part. Hé, t'as appris que Doc a claqué ?
Maurice l'avait appris, en effet. La nouvelle était tombée peu de temps avant celle de sa conditionnelle. Doc Duckworth, son premier protecteur, celui qui avait fait cesser les viols par le codétenu de Maurice et ses copains. Maurice n'éprouvait pas de chagrin particulier. Les gens arrivaient, les gens repartaient. Cette connerie, c'était des conneries. Robertson secoue la tête en attrapant une bouteille sur l'étagère supérieure d'un rangement métallique rempli d'outils et de pièces détachées.
Un truc au cerveau, apparemment. Tu sais ce qu'on dit ? Au milieu de cette putain de vie, on est dans cette putain de mort.
Il verse du bourbon dans une tasse en plastique marquée « Meilleur câlineur du monde » et la lève.
À ce bon vieux Ducky !
Il boit, claque des lèvres et lève à nouveau sa tasse.
Et à toi, Maury Bellamy. Retour à la vie civile. La quille et la frite. Ils t'ont collé à quoi ? Un genre de travail de bureau, à mon avis ?
Maurice lui raconte son boulot au Mac et meuble la conversation pendant que Robertson se sert une nouvelle rasade de bourbon. Maurice n'envie pas Charlie pour sa libéralité avec le whisky. Il a perdu trop d'années de sa vie par la faute de la biture à haute tension. Mais il se dit que Robertson sera plus accessible à sa demande s'il est un peu gai. Quand il juge le moment venu, il dit
« Tu m'avais dit de venir te voir si jamais je sortais et que j'avais besoin d'un service. » « Vrai, vrai. » Mais j'aurais jamais pensé que tu sortirais. Pas avec cette cubénie que tu t'es farcie et qui voulait plus te lâcher.
Robertson glousse de rire et se resserre une dose.
J'aurais besoin que tu me prêtes une voiture, Charlie. Pas longtemps, même pas une demi-journée. Pour quand ?
Ce soir.
Enfin, cet après-midi.
C'est ce soir que j'en ai besoin. Je peux te la ramener tout de suite après.
Robertson a cessé de rigoler. C'est un plus gros risque que de boire un coup, Maury.
Pas pour toi. T'es dehors, libre et réhabilité.
Non, pas pour moi. Je me prendrais juste une tape sur les doigts. Mais conduire sans permis, c'est une grave violation de conditionnel. Tu risques de retourner en cabane. Attention, je dis pas que je veux pas t'aider, au contraire. Je veux juste être sûr que tu mesures l'enjeu.
Je le mesure. Robertson se resserre et sirote tout en méditant. Maurice aimerait pas être le proprio de la bécane que Charlie va remonter une fois que leur petite palabre sera terminée. Enfin, Robertson parle.
Ça t'irait une fourgonnette plutôt qu'une voiture ? J'en ai une petite que je pourrais te passer. Automatique en plus. Il y a encore écrit Fleur Jones sur le côté. Mais c'est à moitié effacé. Elle est derrière. Je peux te la montrer si tu veux.
Maurice veut. Et un seul regard lui suffit pour décider que la petite fourgonnette noire est un cadeau du ciel. À condition qu'elle tourne bien. Robertson lui assure que oui, même si elle a déjà un tour de compteur.
Je ferme de bonne heure le vendredi, vers les 15 heures. Je peux t'y mettre un peu d'essence et te laisser les clés sous la roue avant droite.
C'est parfait, dit Maurice. Il peut encore aller au Mac, dire à son gros con de patron qu'il avait une grippe intestinale, mais que c'est passé. Bosser jusqu'à 4 heures comme un bon petit rond de cuir modèle, puis revenir ici.
D'ivoire, les Groundhogs jouent ce soir, non ?
Ouais, ils reçoivent les Dragons de Dayton, pourquoi ?
T'as envie de placer quelques paris ?
Je pourrais être de la partie.
Une autre fois, peut-être.
Ce que je me disais, c'est que je pourrais te ramener la fourgonnette autour de 10 heures, la garer à la même place et prendre un bus pour retourner en ville.
Sacré vieux Maury, toujours le même.
Dit Robertson. Et il se tapote la tempe de l'index. Ses yeux se sont notablement injectés de sang.
T'es pas tombé de la dernière pluie ?
Oublie pas de laisser les clés sous la roue. »
La dernière chose qu'il faudrait à Maurice, c'est que Robertson, torché au mauvais whisky, oublie.
« J'oublierai pas. Je te dois une fière chandelle, mon pote. Je te dois le monde entier. »
L'expression de ce sentiment nécessite une nouvelle étreinte fraternelle au relent de sueur, de bourbon et d'après-rasage bon marché.
Robertson le serre tellement fort que Maurice a du mal à respirer. Mais enfin, il lui rend sa liberté.
Il raccompagne Charlie au garage en pensant que ce soir, dans 12 heures peut-être moins, les carnets de Rothstein seront de nouveau en sa possession. Avec une perspective aussi enivrante que celle-là qui a besoin de bourbon.
Je peux te demander pourquoi tu travailles ici, Charlie?
Je croyais que tu devais toucher un paquet de fric de l'État pour erreur judiciaire.
Oh mec, ils m'ont menacé de ressortir d'anciennes inculpations.
Robertson se rassoit devant la Harley. Il ramasse une clé à molette et s'en tapote une jambe de pantalon noire de cambouis.
Y compris une dans le Missouri qui aurait pu me renvoyer derrière les barreaux pour le restant de ma vie.
La règle des 3 infractions ou une connerie comme ça.
Alors j'ai passé une espèce d'accord.
Il observe Maurice de ses yeux injectés de sang et en dépit de ses biceps charnus, il est clair qu'il n'a pas laissé tomber l'habitude de la muscu prise en prison, Maurice voit bien qu'il est vraiment vieux et qu'il sera bientôt malade aussi, s'il ne l'est pas déjà.
Il t'encule en fin de compte, mon pote. Bien profond. Secoue le cocotier et il t'encule encore plus profond. Alors tu prends ce qu'on te donne. Voilà ce qu'on m'a donné et ça me suffit.
Cette connerie, c'est des conneries, dit Maurice.
Robertson beugle de rire.
T'as toujours dit ça, et c'est la putain de vérité.
Juste, oublie pas de laisser les clés.
Je les laisserai.
Robertson brandit un doigt noir de cambouis sous le nez de Maurice.
Et toi, te fais pas choper. Écoute, papa.
Je me ferai pas choper, pense Maurice. J'ai attendu trop longtemps.
Et une dernière chose,
Robertson attend.
T'aurais pas un flingue?
Maurice voit la mine de Charlie et ajoute précipitamment.
Pas pour m'en servir, juste par sécurité.
Robertson secoue la tête.
Pas de flingue. Je me prendrai largement plus qu'une tape sur les doigts pour ça.
Je dirai jamais que c'est toi.
Les yeux injectés de sang épient Maurice avec ruse.
Je peux être franc. T'es trop fraîchement sorti de tôle pour un flingue. Tu trouverais le moyen de te coller une prune dans les couilles. La fourgonnette, ok, je te dois ça. Mais si tu veux un flingue, va le chercher ailleurs.